Chapitre 5. Des gens parlaient au loin. Des voix douces, sûres, agréables. Elles gagnaient en intensité. Alexis ouvrit les paupières avec difficulté. Il lui semblait qu'elles avaient rétréci avec le sommeil, trop petites pour ses yeux. Il se les frotta en grognant, comme pour leur rendre leur élasticité. Réveil difficile. Groggy. Encore enserré dans son carcan de chaleur réconfortante que maintenait la couette, les joues en guise de sonde pour se rendre compte de la fraîcheur de son appartement. Il avait veillé trop tard, incapable d'éteindre la lampe. Alexis avait ses périodes d'angoisse, celles où il redoutait l'instant où il poserait la tête sur l'oreiller dans le noir, où il serait seul face à la réalité, à sa solitude. C'était dans ces supposés moments de détente que le pire lui revenait en mémoire. Insidieusement. D'abord les broutilles qui vous polluent le quotidien. Les problèmes de fric. La chasse d'eau qui fuit encore depuis 2 mois. Au moins 6 ou 8 semaines sans avoir appelé sa mère pour prendre des nouvelles. Les emails en retard des copains, son éternel célibat. Jeune trentenaire et pas de femme, pas d'enfant en vue. Puis, une fois tout cela évacué, une fois l'esprit libéré des contingences de la vie réelle, dans cette semi-torpeur, antichambre du sommeil, ce début d'obscurité pour l'âme, venaient alors les morts. Semblables à des ombres lointaines, presque timides, ils approchaient lentement pour affleurer la conscience. Et lorsque leur silhouette entrait pleinement dans le champ de la pensée, il était trop tard. Alexis ne pouvait plus s'endormir. Il revoyait ces gens dont il avait découvert les cadavres, ou analysait la vie sous toutes les coutures, ces morts violentes qui revenaient le hanter dans un moment de fragilité. Alexis l'avait découvert avec un peu d'expérience. Les fantômes existent. Ils se nichent dans l'interstice entre veille et sommeil. Cet entre-deux mondes où le conscient bascule vers l'inconscient, cette fine lisière sans contrôle où l'homme peut encore entreapercevoir des choses quand il ne maîtrise plus sa pensée. Et les fantômes se nourrissent de la solitude des vivants. Elle leur rappelle leurs propres conditions. Alexis détestait s'endormir seul. Il aimait pourtant sa vie de solitaire. À travailler jusqu'à pas d'heure, à sortir avec des collègues le reste du temps, ou à lire des bandes dessinées, à jouer à ses jeux vidéo, et surtout à regarder les matchs de football américain sur Internet. Malgré tout cela, il avait besoin de s'endormir avec quelqu'un pour chasser les fantômes. Alexis préférait aux somnifères la compagnie de filles rencontrées dans des bars. Parfois même, il payait le plaisir coupable d'une escorte qui partait dès qu'il sombrait. Toutes ces femmes dont il oubliait le prénom avec l'aube avaient compté à leur manière, au-delà des extases fugitives. Leur humanité l'avait rassuré momentanément. Il se camait à la chaleur des corps, anxiolytique naturel. Des âmes en guise de traitement homéopathique du blues. Les voix de la radio parlaient de politique américaine, d'élections. Alexis se redressa en étirant les bras. Personne dans son lit ce matin-là. Voilà pourquoi il avait si mal dormi. La tiédeur de l'autre pendant le sommeil avait quelque chose de primitivement rassurant. Il fila directement dans la salle de bain pour prendre sa douche, pour chasser les dernières guenilles du sommeil sur sa peau, et balaya l'idée de se raser d'un revers de main sur le miroir embué. Un café fumant dans un mug des New York Giants à la main, Alexis observait le 20e arrondissement qui se réveillait. Les lumières des fenêtres, comme autant de paupières qui s'ouvrent sur une nouvelle journée. Un samedi matin, début octobre. Il n'y aurait pas de week-end pour lui, ni pour aucun de ses collègues de la section de recherche. Pas avec ce qui s'était produit hier après-midi en gare d'Herblay, petite ville tranquille de banlieue qui venait de basculer à la une des journaux. Pas avec 5 crimes en série, des photos pédophiles et maintenant un quadruple homicide suivi d'un suicide. Ils allaient passer la journée à harceler les flics pour obtenir l'identité du tagueur. Le colonel de la SR, lui, serait avec le juge d'instruction, à pourrir son week-end jusqu'à obtenir de prendre l'affaire en main. Alexis vivait dans un immeuble de 9 étages au sein même de la caserne. Une barre sinistre qui logeait 54 familles de gendarmes, sorte de vase clos étouffant. Sorti du hall, il traversa la cour pour pénétrer dans la gendarmerie au 1er étage de laquelle il avait son bureau. Ludivine était déjà derrière les 2 écrans de son ordinateur. L'un ouvert sur les fenêtres de ses différents réseaux sociaux, l'autre sur les dernières dépêches émises par le FBI qu'elle était en train de lire. « Tu ne dors jamais ?» fit Alexis en tendant son poing fermé. Ludivine le salua du même geste, en le cognant par le dessus. « Les feignants dorment, » répondit-elle sans quitter ses écrans du regard. « Les grands angoissés ne dorment pas. À en juger par tes cernes, tu as beaucoup d'angoisse ?» Il secoua la tête de dépit. « Toujours le dernier mot, hein ? Bon, du nouveau dans la nuit ? Rien, j'ai déjà relancé l'OPJ qu'on a vu hier. 3 messages en 1 heure, je pense qu'il aura compris l'urgence. » La masse de saignants se découpa dans l'espace de la porte. Il leva une enveloppe au format A4 devant lui. « T'es déjà là, toi ?» s'étonna Alexis. Le colosse avait des poches sous les yeux. « J'étais au-dessus avec Cyril. On a reçu le rapport de l'ondotologiste à propos des morsures qu'a infligées la bête à ses 3 victimes. « Ils ont trouvé de l'ADN autour des plaies ?» demanda aussitôt Alexis. « Rien d'exploitable. » Saignant sortit plusieurs feuilles roses et les agita. Alexis les reconnut sans même avoir besoin de les lire. Formulaire d'identification odontologique d'Interpol. Des fichiers types. Rose pour les morts. Pour les vivants, en cas de disparition notamment, ils étaient jaunes. L'expert a établi une empreinte de morsure concordante pour les 3 crimes. C'est la même mâchoire à chaque fois. On avait peu de doutes là-dessus, ironisa Ludivine. Sans lâcher la liasse rose, Saignon fit tourner les pages d'un rapport ponctué de schémas crayonnés. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant, il dit, je cite, « La courbure dentaire revêt une forme en U, dont la topographie palatine ne correspond à rien de connu. » Les collègues se regardèrent, dubitatifs. « Ça signifie que le type a une malformation ? Un bec de lièvre ?» demanda Ludivine, pleine d'espoir. Alexis posa une fesse sur le coin du bureau de la jeune femme. La chance était peut-être en train de leur sourire. Une déformation au niveau des dents était mieux qu'un tatouage ou qu'une cicatrice sur le corps, c'était une véritable empreinte. Il faudrait envoyer une circulaire à chaque dentiste du pays, à chaque hôpital, et tôt ou tard, il était très probable que le dossier du patient ressurgisse. Saignon reprit la main, le regard noir. « Attendez avant de vous emballer, écoutez plutôt la suite. La disposition des dents, ainsi que l'accumulation de dents carnassières, incisive et surtout canine, laisse penser à une origine animale, même si la taille de la mâchoire, elle, est très grande et de forme atypique, plus proche dans ses caractéristiques de base de celle de l'homme que de la bête, bien qu'il faille, là encore, être prudent tant l'ensemble est unique. » Il entre dans les détails techniques ensuite. « Il pourrait s'agir d'un mélange de macrodoncies, peut-être lié à un gigantisme hypophysaire, de gémination ainsi que de dédoublement, bien que l'accumulation soit... »«
Alors quoi ? C'est un mec ou une bestiole qui fait ça ?» s'agaça Ludivine qui aimait le concret et la clarté. « De toute évidence, ça ne peut être qu'un homme. Je ne vois pas comment il pourrait transporter un animal et l'obliger à mordre. Et puis, pourquoi ferait-il un truc pareil ?»«
Ce serait pas le premier dingue, » Saignon les interrompit pour terminer. Le toubib conclut en proposant de regarder du côté des patients ayant subi une opération esthétique des dents. C'est en vogue dans certains milieux gothiques. Ils se font poser des fausses dents de forme étrange ou bien limer les quenottes pour avoir des crocs. Les plus extrémistes vont jusqu'à se faire tailler toutes les dents pour ressembler à des requins. L'expert dit que c'est particulièrement en vogue en Angleterre et en Allemagne, nettement moins en France. Cependant, il reste sceptique quant à la probabilité que ce soit une mâchoire humaine, à cause de la topographie palatine singulière, à moins d'une déformation majeure.
« Moi, j'appelle ça une piste intéressante », conclut Alexis en attrapant les feuilles roses. « Nous allons faxer ça à tout le monde. Une bouche comme celle-là, c'est assez exceptionnel pour qu'un dentiste ou un service hospitalier en ait gardé une trace quelque part. »«
On oublie l'hypothèse d'un animal ?»
s'étonna Saignon. « Tu l'expliquerais comment ? Quel type d'animal ?»
J'en sais rien, c'est pour ça qu'on pourrait aller solliciter l'aide d'un veto ou d'un expert dans un zoo, non ?
Ludivine secoua la tête et se rallia à l'avis d'Alexis. Un pervers qui a élaboré tout un fantasme complexe au point de tuer et d'aimer tellement ça qu'il recommence, tu crois qu'il s'emmerderait avec une bestiole ? Pourquoi faire ? La forcer à mordre ses victimes ? C'est pas un peu débile, non ?
On sait qu'il manque des fragments de chair sur les filles, des bouchées entières. Je trouve moins dément d'imaginer que c'est une bête qui les dévore plutôt qu'un homme avec une bouche difforme.
« Arrête, c'est pas crédible une seconde, » répliqua Ludivine. « On n'a jamais vu un mec mélanger ses fantasmes à des délires de bêtes sauvages. »«
On n'est pas à l'abri d'une première, » opposa Saignon.
« Et puis t'imagines la logistique ? Faire venir l'animal, quel qu'il soit, et c'est manifestement pas juste un clébard, plutôt un ours ou un lion, vu la taille des morsures, puis l'obliger à obéir, à mordre, le tout sans qu'on retrouve la moindre empreinte au sol, ni même de poils sur la scène. Il y a des limites au génie criminel et au machiavélisme. On n'est pas dans un film, Seignon.
Alexis brandit les feuilles roses. On se concentre pour l'instant sur l'homme. On balance l'empreinte de la mâchoire à tous les dentistes et services de stomatologie des hôpitaux.
Seignon leva les mains en signe de capitulation.
C'est toi le boss, je vais faire le rapport.
Il retourna derrière son bureau pour synthétiser le dossier de l'odontologiste afin d'enrichir leurs notes d'enquête. Sa main recouvrit la souris et spontanément, il ouvrit Firefox, plutôt que le fichier de l'enquête. La page de recherche de Google s'afficha. C'était plus fort que lui. En quelques secondes, Seignon se retrouva sur le site du Muséum national d'histoire naturelle.